France Culture.
La science, c'est QFD. Antoine Beauchamp.
C'est l'une des chercheuses américaines qui nous a permis de comprendre les effets du changement climatique sur l'évolution et la répartition des espèces vivantes. Aujourd'hui en exil en France, nous recueillons son témoignage. Camille Parmesan est notre invitée. Sa vie de chercheuse est en partie dédiée à un petit papillon, le damier d'Edith, qui nous montre comment le réchauffement climatique transforme les espèces vivantes et leur aire de répartition. Entre observation continue de terrain, partage auprès du grand public et participation aux instances scientifiques internationales, Camille Parmesan a dédié sa vie aux sciences, ces mêmes sciences qui sont aujourd'hui attaquées par Donald Trump et les siens. Quelle réponse apporter à ces attaques? Quelle solidarité scientifique bâtir à l'heure où le climat politique change brutalement? Et comment continuer à faire évoluer notre savoir sur la biodiversité en crise? Camille Parmesan, l'écologie dans un cocon fragile. Bonjour Camille Parmesan.
Hello, very nice to meet you.
Very nice to meet you too, thank you very much for being with us. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes écologue, professeur à l'université de Plymouth au Royaume-Uni et à la station d'écologie théorique et expérimentale à Moulis en Ariège. Vous êtes rattaché au CNRS et à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Mille merci d'avoir accepté notre invitation et de venir témoigner dans notre émission. On est ravis de pouvoir discuter avec vous tout au long de cette heure, d'évoquer votre parcours, mais aussi d'avoir votre point de vue sur la façon dont les sciences sont attaquées aujourd'hui aux États-Unis et sur la façon dont la communauté scientifique réagit à ces attaques. Vos propos seront traduits aujourd'hui en direct par Marguerite Capelle. Bonjour Marguerite.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Avant d'entamer notre discussion avec vous, Camille Parmesan, je rappelle à nos auditrices et nos auditeurs que vous pouvez retrouver comme chaque jour tous les liens vers les articles qui nous ont permis de préparer cette émission sur le site de la Science CQFD, mais aussi sur notre compte Blue Sky @ScienceCQFD. Camille Parmesan, on vous présente parfois comme l'autrice de l'étude la plus citée concernant la recherche sur le changement climatique. Et on va voir ensemble comment vous avez patiemment développé votre méthode de travail qui permet aussi bien à des spécialistes que des non-spécialistes de lire vos travaux et, in fine, de comprendre les mécanismes clés liant le changement climatique et la biodiversité. Avant de discuter de la façon dont vous avez mis en place cette méthode, j'aimerais vous poser une première question d'ordre général, peut-être une question trop vaste déjà, mais qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui pour vous, en 2025, étudier la biodiversité et quels sont les changements fondamentaux qui ont été opérés entre les années 80 quand vous avez commencé à travailler sur cette question de la biodiversité ?
Oh boy,
c'est beaucoup plus déprimant aujourd'hui que ça ne l'était dans les années 80. Quand j'ai commencé à étudier ce sujet, j'étudiais les changements dans la biodiversité et les choses évoluent en permanence. Mais de plus en plus, ce que j'étudie, c'est la perte de biodiversité parce que les populations que j'étudiais depuis 40 ans sont en train de disparaître et de disparaître pour toujours. Leur habitat tout entier disparaît. Et la différence entre ça et ce qu'il pouvait se passer il y a 50 ans, c'est que quand quelque chose avait disparu il y a 50 ans, c'est parce que quelqu'un avait construit un immeuble là où était cette espèce. Maintenant, si on voit encore des arbres, des plantes, des fleurs, en revanche, le petit papillon très particulier qu'on voulait observer, lui, il a disparu à cause du changement climatique.
On va parler bien sûr de cette rencontre avec le damier d'Edith qui a accompagné tout votre parcours de chercheuse. Mais avant ça, j'aimerais qu'on fasse un petit détour du côté de la biographie et qu'on explique d'où vous vient ce goût pour les sciences et pour l'observation scientifique de la nature. Est-ce que c'est quelque chose de famille? Est-ce que vous avez appris à observer la nature en famille?
Ah oui,
ma mère était également chercheuse, elle était géologue et botanique. Et donc depuis le moment où j'ai appris à marcher, je me souviens qu'elle nous emmenait en forêt. Elle nous emmenait aussi dans l'est du Texas, dans la région aussi des côtes du Texas. On étudiait toute la flore des dunes et puis ensuite elle m'a emmenée dans les montagnes du Colorado, du Montana. Et partout où on allait, c'était comme un cours d'histoire naturelle. On observait tous ces oiseaux, toutes ces fleurs et ces formations géologiques incroyables. Donc depuis mes plus lointains souvenirs, elle m'enseignait des choses, mais elle me montrait aussi la beauté incroyable qui nous entourait en permanence.
Et pourtant, vous n'avez pas tout de suite choisi, Camille Parmesan, la voie de la nature. Une autre voie de la nature, vous avez voulu commencer par étudier la médecine. Qu'est-ce qui vous a pris ?
Pour moi, aller me promener dans la forêt, c'était simplement un loisir. On le faisait pour s'amuser, pas pour gagner sa vie. Et j'ai toujours été fascinée par le corps humain. Je ne sais pas pourquoi. Et donc j'étais profondément convaincue, depuis mes 13 ans à peu près, que j'allais être chercheuse, mais en médecine. Donc pas docteur au sens de la pratique clinique, mais vraiment chercheuse en médecine. Ce qui me fascinait, c'était le fonctionnement du corps humain. Ce qui m'a bloquée sur ce chemin, ça a été ma toute dernière année d'université. Donc juste avant d'avoir un diplôme de médecine, il fallait que je suive des cours de physiologie en laboratoire. Et on me demandait de disséquer un tout mignon petit rat blanc avec son petit nez rose et de le regarder mourir. Et je suis sortie de là en pleurant, en me disant « Non, je ne peux pas faire ça, ça ne peut pas être ça le reste de ma vie. » À l'époque, j'avais déjà fait un court stage sur le sujet de ces papillons en Californie. Et je me suis dit « Tiens, il y a des gens qui en vivent, alors peut-être que je peux faire ça. »
Vous avez franchi la porte de la fac de médecine et vous êtes restée dehors, vous êtes restée au grand air. Et ce qui est très beau dans votre parcours de chercheuse, Camille Parmesan, c'est justement cette rencontre avec un papillon, c'est pas commun comme rencontre. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce papillon, le damier d'Édith, et pourquoi avoir fait le choix de ce papillon-là spécifique en question ?
Quand je finissais ma licence, pour les études que je faisais, il fallait que je mène un petit projet de recherche indépendante, un projet court. J'ai essayé de travailler sur les primates. Je trouvais ça intéressant parce que c'était très proche des humains. Mais c'était très déprimant parce qu'ils étaient détenus dans des conditions très artificielles. Ils étaient dans des cages et je devais étudier leur comportement et je ne voyais vraiment pas comment étudier le comportement de cette espèce extrêmement intelligente alors que les singes étaient enfermés dans des cages en métal. Je me suis tournée vers les oiseaux. Je les adore, j'adore les regarder, mais devoir me lever à 4 heures du matin pour retrouver des doctorants qui travaillaient sur le comportement des espèces d'oiseaux depuis des années pour en sortir une seule publication m'a fait penser que ce n'était peut-être pas non plus pour moi. Je ne suis pas quelqu'un du matin. Se lever à 4 heures du matin, pour moi, c'est très difficile. Ensuite, je me suis tournée vers les abeilles domestiquées, les abeilles qui produisent du miel. C'était amusant, mais il y avait déjà énormément de choses qui avaient été faites sur les abeilles. Je ne savais pas quoi apporter de nouveau. Et c'est mon quatrième projet, en fait, qui m'a amené à travailler avec un des professeurs sur son terrain en Californie, dans les montagnes. Et je me suis dit, bon, d'abord, cet endroit est magnifique. On était partis camper. Le ciel était incroyable tous les soirs. On avait des échanges scientifiques absolument passionnants autour du feu de camp. Et puis, il y avait ce petit papillon qui est extrêmement facile comme sujet de travail. Il y avait énormément de questions à poser qui étaient innovantes, qui étaient excitantes. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Ça doit être le bon écosystème pour moi. Donc tout ça est vraiment une histoire de chance, de hasard.
Une chance que vous avez provoquée tout de même un peu, Camille Parmesan, parce que vous racontez que vous avez pris plusieurs chemins avant d'arriver nez à nez, antenne à antenne avec ce papillon, le damier d'Édith. Est-ce que vous pourriez nous décrire ce papillon-là, son comportement, son écosystème et ses spécificités, ses caractéristiques ?
Alors, je continue à étudier ce papillon 40 ans plus tard. Et l'été dernier, j'ai emmené un de mes assistants de recherche qui a dit quelque chose de très drôle. Il a dit, mais c'est pas un papillon, c'est un chien. Et je me suis rendu compte qu'il avait un peu raison. Ça ressemble davantage à un chien. Quand on lui dit de faire quelque chose, il le fait, il obéit. C'est assez inhabituel de pouvoir manipuler un organisme sans l'affecter. Je peux le prendre, je peux le poser sur une plante, je peux lui demander si cette plante lui plaît et il va s'installer par lui-même, m'ignorer et mener sa petite vie sur cette plante, l'observer, la tester, la goûter, voir si c'est le bon endroit pour lui. Et moi, je peux être là à quelques centimètres et ça n'empêche pas ce papillon d'avoir ce comportement. Donc c'est vraiment un organisme assez fabuleux à étudier et qui montre énormément de signes d'adaptation locaux parce que ce sont des petites populations qui ne se déplacent pas énormément. Et donc, pour cette raison-là, ils s'adaptent énormément à leur environnement au niveau local, ce qui signifie que la population qu'on étudiait dans la Sierra Nevada avait une écologie, un rythme de vie totalement différent, un usage totalement différent de son habitat qu'une autre population de papillons qui était peut-être à 30 km de là, simplement. Donc, c'est extrêmement riche. Ça donne un canevas et une toile de comportements au sein d'une même espèce qui sont extrêmement divers et variés. Et c'est ça qui intéresse le scientifique. On aime les variations parce que c'est ça qui permet de poser des questions extrêmement sophistiquées. Et alors que j'approchais de la fin de mon doctorat, le sujet du réchauffement climatique a commencé à devenir très important. Mais à ce moment-là, les chercheurs qui travaillaient sur le changement climatique se doutaient, à cause de la physique tout simplement, des gaz à effet de serre, que le climat était en train de se réchauffer, mais ce réchauffement n'avait pas été encore détecté, mesuré de façon précise dans le climat mondial. Et moi, je travaillais avec des papillons dont on savait, parce qu'on travaillait dessus depuis 30 ans, qu'ils étaient extrêmement sensibles au climat. On savait que certaines populations avaient pu s'éteindre suite à des événements climatiques extrêmes, comme des sécheresses. Et donc, je me suis dit que le papillon était peut-être un meilleur indicateur du réchauffement climatique qu'un thermomètre. Parce qu'on ne sait pas exactement quels aspects liés aux températures, aux chutes de neige, aux précipitations provoquent une réaction chez ces papillons. Mais le papillon sait. Et on voit quand ça se passe mal pour les populations de papillons. Et donc, il y a eu un projet financé par la NASA sur 4 ans. Ça m'a d'ailleurs empêché de terminer mon doctorat à ce moment-là parce que j'avais ma thèse toute prête et puis ces financements de la NASA sont tombés pour travailler sur le changement climatique. J'avais déposé une demande. Je l'ai obtenue. On était vraiment très content, mais en même temps, il fallait que je reste doctorante pendant 3 ans de plus parce que c'était un financement réservé aux doctorants. C'était néanmoins fabuleux.
Camille Parmesan, je vous interromps juste 2 petites secondes. C'est intéressant parce que vous soulignez l'importance et le rôle qu'a eu la NASA dans vos recherches. A priori, quand on pense à la NASA, on pense à des satellites, on pense à des engins envoyés dans l'espace. Que vient faire une chercheuse spécialiste des papillons dans un appel à projet de l'Agence spatiale américaine ?
C'est amusant, en fait, parce que cet appel à projet qu'ils ont lancé était principalement orienté vers l'utilisation de l'imagerie satellite pour détecter l'impact des changements climatiques à l'échelle des écosystèmes. Donc, regarder les zones qui verdissent au printemps ou qui deviennent brunes à l'automne. Est-ce qu'il y a davantage de vert dans le désert ou est-ce que c'est le désert, au contraire, qui progresse ? Ce genre de questions très vaste qu'on peut effectivement traiter avec des données satellites. Et tout à la fin de l'appel à projet, de la liste de ce qu'ils étaient prêts à financer, il y avait une phrase qui parlait de l'impact du changement climatique sur les espèces. Et là, je me suis dit, ça c'est moi.
Vous avez eu du coup le nez creux, vous avez été opportuniste et vous avez su lire les petites lignes du contrat. Donc ça, c'est bien joué à vous, bravo. Si on doit définir aussi ce passage du laboratoire au terrain, quelle importance ça a eu pour vous. Comment, finalement, on pourrait définir votre méthode de travail, Camille Parmesan ?
Bon, je dois reconnaître que j'ai fini par détester le travail de laboratoire. Je pense que je n'aurais jamais été une bonne chercheuse en médecine parce que je n'aurais pas pu supporter de devoir maintenir une hygiène une hygiène parfaite. Il ne doit y avoir absolument aucun germe, aucune trace d'ADN qui traîne parce que ça peut détruire vos échantillons de recherche. Et puis tout se passe à l'intérieur, dans un environnement artificiel, avec un air artificiel. Et moi, j'adore être dehors. Donc au bout du compte, le travail de terrain, c'est ça, mon laboratoire, et c'est vraiment l'endroit qui est le bon pour moi.
Comment vous définiriez votre méthode maintenant que vous la pratiquez depuis quelques années déjà? Qu'est-ce qui vous semble important à vous en tant que chercheuse quand vous êtes sur le terrain? Et si vous deviez parler justement à des étudiants aujourd'hui de votre approche et de ce que vous pensez être spécifique dans votre approche, quelle serait cette approche-là?
En fait, c'était très difficile d'imaginer une manière d'observer l'impact du changement climatique sur une population sauvage. Tous ceux qui s'intéressent à la conservation, la préservation de la biodiversité savent que les humains font toutes sortes de choses qui ont un impact sur les animaux sauvages. Il y a bien sûr l'immobilier, la destruction, le développement immobilier, la destruction des habitats, mais aussi d'autres choses plus subtiles comme par exemple les pesticides qui sont répandus sur les récoltes et qui gagnent des zones naturelles, des habitats naturels et affectent le système reproductif d'espèces comme les abeilles, par exemple. Même quand on s'intéresse, par exemple, à la question des coupes forestières, du bûcheronnage, même si on fait évoluer ces techniques, on continue à avoir un impact sur l'écosystème des forêts et sur la biodiversité. Donc comment réussir à identifier vraiment ce qui relève du changement climatique? C'était très difficile à faire et ma première approche a été d'éliminer tout le reste. Donc c'était presque une approche à la Sherlock Holmes. Si vous éliminez tous les autres facteurs, ce qui reste doit forcément être la réponse. Et donc j'ai choisi des sites à analyser et je me suis limitée aux sites qui apparaissaient comme des habitats parfaits, qui étaient des espaces restés naturels, qui n'avaient pas été altérés par les humains, où il y avait les plantes hôtes de ce papillon que j'étais capable de reconnaître, où il y avait des bonnes plantes pour le nectar, il n'y avait pas beaucoup de pollution de l'air. Quand on est très près des grandes villes, la pollution de l'air, par exemple, peut induire énormément de changements dans l'écosystème. Donc j'ai choisi des zones plutôt rurales à la campagne qui paraissaient être un habitat sain qui me permettrait normalement de trouver une population de papillons. Et ensuite, la question que je me suis posée, c'est qu'en fait, j'ai passé un an à faire le tour des musées pour consulter les archives sur toutes les populations de papillons qui avaient été capturées à différents endroits, observées depuis les années 1860. Et à chaque fois, je trouvais des indications extrêmement précises parce qu'encore une fois, ces papillons ne se déplacent pas énormément. Donc il fallait savoir exactement où les trouver et où ils avaient été repérés. Et quand, après avoir consulté ces archives, je trouvais un habitat qui existait encore au moment où je faisais ces recherches, je me suis dit, je peux aller vérifier si le papillon y est toujours. J'ai donc commencé à enregistrer l'extinction de populations de papillons dans des habitats qui pourtant paraissaient toujours propices. J'ai regardé des zones qui allaient du Mexique jusqu'au Canada, les zones côtières de la Californie. Et ce que j'ai constaté, c'est qu'il y avait beaucoup plus d'extinction au sud, au Mexique qu'au Canada, et qu'il y avait aussi beaucoup plus d'extinction au niveau de la mer, dans les zones basses de faible altitude, que dans les montagnes, dans les Rocheuses ou la Sierra Nevada. Donc il a fallu beaucoup de travail, il a fallu 4 ans et demi pour en arriver à cette conclusion qui tient en une phrase. Mais elle était en revanche extrêmement solide et étayée et rigoureuse.
Voilà, en 1996, Camille Parmesan, vous publiez le résultat de cette enquête de Sherlock Holmes dans un article paru dans la revue Nature qui a fait grand bruit à l'époque. Cet article, on donne son titre en anglais, Climate and Species Range, en français, le climat et l'aire de répartition des espèces. Et dans cet article, comme vous le dites en une phrase, voilà, vous faites le lien entre l'évolution du climat et l'évolution de la répartition des espèces. Et c'est la toute première fois qu'une étude montre que les espèces changent d'habitat à cause du réchauffement climatique, qu'elle accueille et réservé par la communauté scientifique, par vos pairs, à l'époque de la parution de cet article.
Well, I
Je voudrais corriger juste une chose. Ce n'est pas l'espèce qui se déplace, c'est que les populations disparaissent. Il y a des extinctions de populations dans le sud. C'est très important de le préciser parce que le déplacement des espèces d'un habitat à un autre, pour toutes les espèces, que ce soit des oiseaux, des insectes, ce ne sont pas des individus qui se déplacent. C'est un processus beaucoup plus long et beaucoup plus aléatoire où il y a des populations qui s'éteignent et une colonisation qui peut se développer dans l'habitat qui se situe plus au nord. Il faut le préciser parce que les gens peuvent mal comprendre et croire que des individus peuvent tout simplement décider d'aller vivre ailleurs. Or, c'est un processus qui est beaucoup plus lent, beaucoup plus aléatoire. Et parfois, il suffit d'une tempête pour effacer toute une espèce d'un habitat, par exemple, et ouvrir la porte à la colonisation d'une autre espèce. Donc, ce ne sont pas des espèces qui essayent de trouver un nouvel habitat. Ça se passe vraiment par hasard total, et c'est évidemment beaucoup plus difficile.
La deuxième partie de la question était importante puisque je vous posais la question de savoir quel avait été l'accueil réservé par vos collègues scientifiques à cet article qui faisait pour la première fois quand même un lien très très net entre changement climatique et disparition d'espèces.
Oui, c'était très important cette publication parce que il y avait des signes qui montraient que quelque chose pouvait se passer à un endroit précis déjà, mais ça, c'était de nature à convaincre d'autres chercheurs, d'autres biologistes que ce phénomène était réel. Quelques mois après la publication, j'ai même été invitée à la Maison Blanche pour donner une conférence et c'est Tom Carl qui était à la tête de l'Institut de recherche et d'études des données sur le climat, qui était le premier, c'est lui qui m'a invité, il avait été le premier justement à publier sur un réchauffement de la planète. Je lui ai demandé pourquoi il s'était intéressé à ma conférence sur les papillons. Il m'a dit, c'était très drôle. Mais tu ne comprends pas, tu as prouvé que ce n'est pas qu'une question de thermomètre, c'est une réalité. Donc même pour les spécialistes du climat, voir un organisme vivant réagir à ce réchauffement climatique le rendait plus réel. Et un mois plus tard, j'ai été invitée à participer au GIEC parce que personne ne menait le type de recherche que je faisais. C'était assez amusant parce qu'à ce moment-là, j'étais donc en post-doctorat en Californie et je me suis retrouvée dans cette réunion avec principalement que des hommes blancs, ce qu'on appelle les hommes à dos argenté, un petit peu comme les gorilles à dos argenté. C'était un peu impressionnant. Je ne suis pas facilement intimidée, mais c'était quand même impressionnant.
Et on va y venir dans un instant justement à votre entrée dans ce groupe international d'experts du climat.
France Culture. La science CQFD, Antoine Beauchamp.
On poursuit cet épisode de la science CQFD avec vous, Camille Parmesan, notre grand entretien de la semaine. On est ravis de pouvoir nous entretenir pendant toute cette heure avec vous. Vous l'évoquiez à l'instant, votre arrivée dans ce groupe de vieux mâles blancs du GIEC, vous, jeune post-doctorante dans les années 90. Est-ce que c'était naturel pour vous de passer du terrain à cet espace éminemment déjà politique ?
Bien, le GIEC n'est pas politique au sens où il est composé exclusivement de scientifiques. Donc, j'avais vraiment affaire au corps scientifique, des gens qui étaient en dehors de ma propre discipline. C'était des spécialistes du climat, c'était des économistes, c'était des océanographes. Mais c'était assez différent, c'était assez similaire à un congrès scientifique, finalement. C'était différent d'un congrès politique. La politique, c'est par exemple quand je suis intervenue à la Maison Blanche devant des représentants du Congrès. Là, j'avais affaire aux politiques. Mais l'atmosphère était très différente. En général, quand on va dans une conférence d'écologistes, on se retrouve avec des gens qui sont ravis de se retrouver. Et là, la première réunion du GIEC était extrêmement sérieuse. Et je me suis rendu compte que c'était parce que ce qu'on était en train de faire avait un véritable impact sur les politiques. Et donc tout le monde avait envie de bien faire. On a beaucoup discuté, on a beaucoup débattu, mais on débattait justement parce qu'on essayait vraiment de faire ce qui était juste. Ce n'était pas une question d'ego des uns ou des autres ou d'ambition personnelle de tel ou tel chercheur. C'est en cela que c'était très différent.
Et on reviendra tout à l'heure en deuxième partie d'émission sur cette dimension éminemment politique, en tout cas qu'il l'est devenu de ces études scientifiques autour du changement climatique aujourd'hui en 2025. Mais avant cela, on va rester dans les choses un peu plus positives et notamment dans le fait que vous avez inspiré des générations de jeunes chercheurs et que vous continuez d'inspirer des jeunes générations de chercheurs par vos travaux de recherche. Alors, on l'a dit, les effets du changement climatique ne s'observent pas seulement sur les papillons, mais sur toutes les espèces vivantes, y compris les espèces végétales. Et c'est ce qu'on va voir dans le reportage du jour. Bonjour Bruno Sorsini.
Bonjour Antoine.
Pour étudier ces changements sur le temps long en Europe, les Alpes sont l'un des meilleurs laboratoires à ciel ouvert.
Tout à fait. L'idée est de pouvoir comparer l'état actuel des Alpes avec des données plus anciennes pour observer l'impact du changement climatique sur ces écosystèmes. Pour y arriver, nous pouvons remercier nos prédécesseurs, naturalistes et botanistes, qui ont constitué des herbiers très fournis depuis plusieurs siècles. Jonathan Lenoir, chargé de recherche CNRS en sciences forestières, confronte ainsi ces données anciennes avec des relevés récents, en retournant sur les terrains qui ont été inventoriés par le passé. Résultat ? En effectuant des méta-analyses sur de nombreuses espèces animales et végétales, la tendance globale est à la migration vers de plus hautes altitudes, migration liée à l'augmentation des températures. Ce qui reste encore difficile à estimer, ce sont les impacts de ces déplacements sur les interactions qui existent entre les différentes espèces.
La chance qu'on a dans beaucoup de pays, et notamment en Europe, c'est d'avoir des archives passées que nos prédécesseurs botanistes, naturalistes ont pu collecter. Et c'est par exemple les herbiers pour le végétal, qui nous permettent parfois de remonter assez loin dans le temps. 20e siècle, fin du 19e, parfois, pour les plus anciennes observations, on peut donc obtenir des informations précises sur un individu qui a été collecté à tel endroit, à telle altitude. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, comme ces herbiers sont encore bien conservés pour la plupart dans les collections, on peut revenir dessus et scanner les feuilles, mesurer la taille des inflorescences. Si on a des fleurs qui sont visibles sur ce spécimen, c'est qu'il a été collecté après floraison. Donc on a plein d'informations qu'on peut comme ça presque déduire de l'individu qu'on observe aujourd'hui. Et toutes ces informations sont des informations qu'on va pouvoir comparé à des informations contemporaines d'aujourd'hui où des botanistes retournent sur le terrain dans les mêmes localités, au même endroit, à la même altitude que ce que le prédécesseur ou la prédécessrice a pu observer par le passé. Et en revenant sur ces sites, le botaniste peut à nouveau collecter l'individu et on peut à nouveau mesurer les mêmes traits foliaires, les mêmes traits floraux que sur les individus prélevés par le passé et faire cette comparaison entre parfois plusieurs décennies, voire siècles, au moins un siècle de temps passé entre ces périodes.
C'est ce que vous avez fait justement pour cette étude-là que vous avez fait.
C'est ça. Donc dans cette étude, c'est ce qu'on a fait. On voit ici les sites qui ont été réinventoriés dans les Alpes suisses. Et donc,
il y a toute une série de points rouges qui représentent donc les relevés historiques qui sont dans les archives.
C'est ça, c'est exactement ça. Ce sont des points dont on a les coordonnées géographiques, la localité. Et donc on a des dates, en fait. Vous voyez ici, on peut remonter sur ces relevés historiques qui remontent à 1889 pour les plus anciennes et pour les plus récentes de ces herbiers à 1985. Donc on est avant la période forte de réchauffement des températures, puisqu'on dit qu'en France, en tout cas en Europe et dans les Alpes suisses, le réchauffement climatique il est d'autant plus important à partir du milieu des années 80. Et donc, si on prend ces observations qui sont antérieures à 85, c'est le semi de points rouges sur la carte, et qu'on les compare à des observations plus contemporaines d'aujourd'hui qui ont été échantillonnées après 2008, pour les points en jaune sur cette carte, qui sont dans le même secteur, et qui couvre le même gradient altitudinal que les observations passées, et on peut jouer au jeu des différences et voir à quel point la taille de la feuille basilaire de cette espèce a augmenté, ou alors à quel point la tige florale va, elle, avoir une taille plus importante que par le passé. Donc c'est ça qu'on a cherché à mesurer sur ce gradient d'altitude, qui ici, sur le secteur étudié, va de 2000 à 3500 mètres d'altitude. Quand on monte en altitude, de manière générale, quelle que soit la période, la longueur de l'inflorescence ou la longueur de la tige florale diminue. Et ça, c'est logique parce que la température étant plus froide à haute altitude, et donc l'espèce ne va pas investir autant parce qu'il n'y a pas les mêmes ressources disponibles à haute et à basse altitude. Alors, ce qui est plus intéressant que ça, parce que ça, c'est connu, hein, et ben, à la période récente, donc qui est censée être plus chaude, on a toujours ce gradient avec l'altitude qui est que plus on monte en altitude et plus la tige florale est petite, plus la longueur de l'inflorescence est petite, mais tout ça pour une même altitude, c'est-à-dire que si on prend une altitude donnée, à 3000 mètres dans les Alpes, la taille de l'inflorescence va être plus grande aujourd'hui qu'elle ne l'était dans le passé, à la même altitude.
C'est-à-dire que la tendance est la même à la diminution de la taille de l'individu avec l'altitude.
Exactement.
Par contre, les individus vont être globalement plus...
Tous plus grands, de plus grande stature que par le passé à la même altitude. Ce qui suppose, on n'en est pas sûr à 100%, mais ce qui est plutôt lié à une température plus élevée aujourd'hui liée au réchauffement climatique.
Est-ce qu'on observe vraiment une augmentation en altitude des espèces? Est-ce qu'il y a des disparitions aussi d'espèces? Globalement, c'est une méta-analyse qu'on peut obtenir. C'est quoi les tendances?
On observe que via ces méta-analyses, qu'il y a un décalage dans la date de floraison pour les plantes, la fleur, mais qu'il y a aussi une migration altitudinale vers les sommets, en tout cas. En altitude, ce patron est assez net. On observe que beaucoup d'espèces végétales vont migrer à plus haute altitude. Alors, on n'observe pas forcément encore d'extinction à basse altitude qui sont vraiment complètement avérées, ou il doit y avoir des extinctions locales, mais pas une disparition non plus. Il n'y a pas encore, en tout cas, d'études qui montrent qu'il y a vraiment des certitudes sur la disparition de certaines espèces le long de ces gradients altitudinaux. Donc, les espèces ont tendance à migrer vers les sommets et à coloniser de nouveaux espaces à haute altitude quand cet espace est disponible. Alors, les conséquences de ces migrations, comme les espèces migrent à différentes vitesses et qu'il y a des interactions complexes entre les différents niveaux trophiques, hein. Je vous ai parlé de plantes à fleurs, mais évidemment les plantes à fleurs sont pollinisées, sont visitées par des insectes, et toutes ces interactions peuvent être un petit peu bouleversées et changées via ces migrations qui sont plus ou moins importantes suivant les organismes considérés. On peut supposer que les pollinisateurs, si c'est la migration des pollinisateurs qui commence, on peut imaginer que eux vont aussi favoriser la migration des espèces végétales à plus haute altitude, mais ça peut être aussi le fait inverse. On en est encore à se demander finalement qui est responsable.
L'œuf ou la poule, est-ce que c'est les plantes qui vont décaler les pollinisateurs ou l'inverse?
C'est ça, on ne sait pas. On est vraiment dans des relations complexes où l'un peut conduire au déplacement de l'autre et vice-versa. Et donc on étudie beaucoup ces interactions, et c'est parce qu'il y a beaucoup d'interactions, hein, l'écologie et la définition même du mot écologie, c'est la science des interactions et du vivant. Donc cette science des interactions est complexe parce qu'il y a des interactions à plusieurs niveaux. On ne parle pas juste de l'interaction plante-pollinisateur. Donc on voit bien qu'il y a toute une série d'interactions complexes entre les différents niveaux trophiques qui existent pour pouvoir justement que s'orchestre cette migration. Et ça, on est encore loin de comprendre le bouleversement qu'engendre des déplacements d'espèces. Peut-être que de nouvelles interactions plantes-pollinisateurs vont être générées par ces déplacements, avec de nouveaux pollinisateurs qui vont utiliser, visiter ces plantes qui n'étaient pas présentes à ce moment-là avant, et qui vont assurer à leur tour le rôle de pollinisateur, alors que d'autres espèces assuraient ce rôle à plus basse altitude. Donc il y a énormément de conséquences liées à la migration des espèces sur l'ensemble des réseaux trophiques qui constituent le vivant.
Merci beaucoup Bruno Sorsini pour ce reportage. Camille Parmesan, une réaction aux propos qu'on vient d'entendre et à ces travaux sur les espèces végétales et aux effets du changement climatique sur la localisation de ces espèces?
Je suis ravie d'entendre que ce travail soit mené, mais je ne suis pas surprise par les résultats. Ce genre d'évolution est visible partout sur la planète. Il y a énormément d'études qui sont réalisées en basse altitude. Donc c'est vraiment intéressant d'entendre qu'il y a aussi des recherches menées en altitude dans les Alpes, et qu'on va pouvoir se rendre compte un petit peu mieux de ce qui se passe dans les montagnes, parce que je pense que ce sera le dernier refuge climatique pour beaucoup d'espèces, ces montagnes de haute altitude. C'est vraiment important de comprendre ce qui s'y passe.
Restez avec nous parce qu'on va vous retrouver dans un instant, Camille Parmesan. Après avoir vu comment le changement climatique influence directement les aires de répartition des espèces vivantes, on va voir dans un instant comment des changements brutaux de politique peuvent malheureusement eux aussi avoir des conséquences directes, cette fois sur les aires de répartition des scientifiques, et les pousser à migrer. On va se demander notamment quels sont les effets du premier mandat et du début du second mandat de Donald Trump sur la recherche scientifique. Ce sera juste après ça. écoutez La Science CQFD sur France Culture, Camille Parmesan. Vous nous avez demandé peut-être de diffuser un petit morceau de Sidney Bechet et on a pris au hasard, parce que son nom nous plaisait bien, Petite Fleur. Pourquoi vous avez fait ce choix de Sidney Bechet? Est-ce que ça a un goût particulier ou ça vous est venu en tête ce matin?
Oh, he's fantastic. Thank you so much.
Oh, il est fantastique. Merci beaucoup. C'est vraiment un de mes jazzman préférés. Donc, à chaque fois que j'ai l'occasion de l'entendre, j'en profite.
Alors, on poursuit notre discussion avec vous, Camille Parmesan. Je rappelle que vous êtes écologue, professeur à l'université de Plymouth au Royaume-Uni et à la station d'écologie théorique et expérimentale à Moulis dans l'Ariège. On en vient à présent au volet peut-être plus politique de cet entretien. Camille Parmesan, je voudrais vous faire écouter une archive qui date de 2007, l'année où l'ancien vice-président des États-Unis Al Gore et le GIEC recevaient le prix Nobel de la paix pour leurs travaux sur le climat. C'était en 2007.
Un homme s'est vu attribuer aujourd'hui le prix Nobel de la paix, la distinction suprême pour avoir éveillé les consciences sur l'état de la planète. Al Gore, candidat malheureux à l'élection présidentielle américaine, dont le documentaire a été vu partout dans le monde, s'est dit aujourd'hui honoré, mais rappelle aussi l'urgence planétaire à lutter contre le réchauffement climatique pour préparer la paix de demain. Il partage ce prix avec le GIEC, un groupe d'experts qui mène le même combat, Gwenaël Lenoir.
Échange de congratulations entre ceux qui se partagent le Nobel de la paix 2007. Rajendra Pachauri, scientifique indien de renom, converse au téléphone avec Al Gore, ancien vice-président américain. Rajendra Pachauri préside le GIEC, un panel international d'experts qui étudie depuis 20 ans l'évolution du climat. Des travaux scientifiques vulgarisés très largement par Al Gore, l'ancien vice-président américain a mis à profit sa notoriété, ses réseaux et son intérêt pour l'écologie. Il est mis en scène dans un documentaire intitulé « Une vérité qui dérange, succès mondial, récompensé par un Oscar ». À Oslo ce matin, le président du comité Nobel a expliqué pourquoi le GIEC et Al Gore se partagent le prix, autrement dit le lien entre paix et changement climatique.
Ils pourront avoir pour conséquence des migrations massives et mener à une concurrence renforcée pour le contrôle des ressources naturelles. Cela peut déboucher sur des risques accrus de voir éclater des conflits violents et des guerres civiles et entre les États.
Certains continuent à privilégier les mots plutôt que l'action. Ainsi, George Bush, à la tête d'un des pays les plus pollueurs, il a félicité Al Gore et a ajouté qu'il ne changerait rien à sa politique environnementale.
Voilà, Camille Parmesan, vous avez un petit morceau de ce prix Nobel de la paix, puisque vous étiez membre du GIEC en 2007, quand ce prix a été remis à ce groupe d'experts. Comment vous recevez ce genre d'archives 18 ans après? Et voilà, qu'est-ce que ça vous provoque comme réaction?
Eh bien, ça me fait plaisir. Ça a été un des grands moments de ma carrière et de ma vie. Travailler pour le GIEC en tant que scientifique, c'est du bénévolat. Je pense que c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Nous ne sommes pas du tout payés pour ce travail. Et là où j'étais à l'époque, à l'Université du Texas, en fait, mon département m'a dit de ne pas m'engager là-dedans parce qu'il pensait que c'était de la perte de temps et que je ferais mieux de me concentrer sur mes papillons. Et donc obtenir un tel prix, une telle récompense, en avoir une petite partie, c'était quelque chose de très gratifiant et ça a vraiment légitimé mes choix de vie, mes choix de carrière. Le choix de consacrer énormément de temps, énormément d'énergie à essayer de rassembler les meilleurs indicateurs, les meilleures preuves scientifiques, les conclusions les plus robustes et les plus rigoureuses et essayer de faire passer ces informations aux décideurs. Donc ça me réjouit de réentendre ça.
En 2012, Camille Parmesan, vous êtes installée à Plymouth en Angleterre. Qu'est-ce qui vous a conduit au Royaume-Uni? Est-ce que déjà vous sentiez au début des années 2010 un lent déclin dans l'intérêt pour les travaux de recherche que vous meniez aux États-Unis?
Eh bien, j'ai déjà évoqué le fait qu'à l'époque, mon département essayait depuis mon embauche de m'empêcher de participer au GIEC, de me convaincre d'arrêter. Et j'en avais vraiment assez de voir que le travail que je faisais, qui était publié dans des grandes revues scientifiques comme Science ou Nature, J'en avais assez qu'on me dise que ce n'était pas la vraie science, selon mes collègues du département. C'était vraiment épuisant. J'ai eu cette occasion de partir à Plymouth, et puis j'avais la famille sur place, donc c'était une autre raison. Et j'ai saisi cette opportunité. Ça me semblait mieux que ce que j'avais à affronter au Texas, et c'était le cas. Dès que je suis arrivée, j'ai eu l'impression qu'un fardeau m'était enlevé, un fardeau qui pesait sur mes épaules et dont j'ignorais l'existence. Dès que je me suis retrouvée en Europe, au Royaume-Uni, le type de travail que je faisais, qui est l'intersection entre la politique et la science, la recherche, avait énormément de valeur. C'était très valorisé. On pensait que c'était très important de traduire la recherche scientifique pour les décideurs, d'avoir des évaluations globales qui soient rigoureuses, d'avoir des études qui permettent d'étayer les conclusions et les décisions. Donc c'était vraiment un bon choix à l'époque. Et puis ensuite, il y a eu le Brexit.
Le Brexit est arrivé le 23 juin 2016. Alors là, il a fallu se poser la question, retourner aux États-Unis ou bien continuer sur votre voie, un peu comme le papillon que vous étudiez, de migration, de changement d'écosystème. Pourquoi n'êtes-vous pas retourné aux États-Unis en 2016, sachant que Donald Trump n'était pas encore élu à ce moment-là?
Eh bien, j'ai étudié des postes aux États-Unis et au Canada, en fait. Et en fait, Trump a été élu pendant que je candidatais. Et la première chose qu'il a fait, avant même de se retirer de l'accord de Paris, on remonte vraiment à janvier-février, juste après sa prise de poste, il avait déjà commencé à bloquer par ordonnance, par décret, les services qui s'occupaient de la gestion de la nature, empêcher des études d'être publiées. Donc, si on était chercheur au service du gouvernement, dans l'administration gouvernementale, il fallait demander la permission de ses supérieurs pour publier. Et ses supérieurs recevaient l'ordre de ne pas laisser publier des études utilisant les termes changement climatique. Moi, j'avais connu l'époque Bush père, ça allait encore à peu près. Mais j'avais déjà vu ce qui s'était passé, en fait, sous Bush fils, parce qu'il avait commencé à faire ça. Donc, j'ai tout de suite annulé toutes mes candidatures aux États-Unis. Et puis, j'ai entendu le président Macron avec cette vidéo dans laquelle il invitait les scientifiques américains à venir en France. Et donc, j'ai postulé à ce programme. Et puis, finalement, j'ai choisi la France. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir fait ce choix. Surtout, aujourd'hui, je n'ai plus aucune intention de retourner travailler aux États-Unis.
Parlons justement de ce deuxième mandat de Donald Trump qui a commencé de façon extrêmement brutale pour la recherche et beaucoup d'autres recherches au-delà du champ de recherche sur le changement climatique. Quels sont, selon vous, les effets déjà perceptibles de ce deuxième mandat de Donald Trump pour la recherche scientifique américaine? Quelles nouvelles vous recevez de vos collègues restés aux États-Unis?
C'est absolument horrible. Les gens n'écrivent pas trop d'emails à ce sujet. Tout le monde a très peur, donc personne n'écrit trop ce qui se passe, mais j'ai beaucoup d'échanges au téléphone et c'est vraiment atroce. Il y a énormément de gens dont les fonds, les financements ont été gelés, qui ne peuvent plus payer leurs doctorants, les étudiants qui travaillent avec eux. J'ai entendu parler d'une pauvre femme qui avait emménagé en Floride pour un nouveau travail. Elle avait tout quitté, laissé son ancien appartement. Elle avait simplement entassé ses affaires dans une voiture et c'est à son arrivée qu'on lui a dit que ce poste n'existait plus. C'est terrible. Les gens ont postulé à des programmes qui sont définis, et c'est leur objectif principal, comme des programmes d'études du changement climatique, et on ne leur dit même pas où en est leur candidature. C'est le silence radio. Il y a des dizaines de milliers de chercheurs qui travaillent pour l'État qui ont été virés, dont d'ailleurs énormément aussi de pompiers dans les départements qui travaillent sur la lutte contre les incendies. C'est absolument dingue et je n'arrive pas à imaginer comment les États-Unis vont pouvoir se remettre de tout ça.
Vous le dites, Camille Parmesan, c'est absolument dingue et c'est perturbant pour tout le monde de trouver ne serait-ce que le début d'une réponse à ce genre de brutalité qui tombe très très vite. Est-ce que malgré tout, vous réfléchissez déjà, vous, de votre côté, ou est-ce que vous voyez vos collègues envisager une riposte, ou en tout cas une façon de s'organiser pour ne pas disparaître et que leur thème de recherche ne disparaisse pas complètement des radars ?
Oui, bien sûr, les gens résistent. On n'en entend pas tellement parler en Europe et je ne sais pas trop pourquoi, mais il y a des manifestations depuis qu'il est arrivé à la Maison Blanche, partout et pas seulement à Washington, ni à Los Angeles, à Houston, à Dallas aussi, à Austin, et il y a énormément d'universités qui ont joint leurs forces pour lancer des procédures parce que ces histoires de financement, ça concerne aussi les universités, pas les chercheurs à titre individuel. Il y a des subventions d'État qui permettent à ces universités de fonctionner et quand ces subventions disparaissent ou sont gelées, je crois que ça concerne 11 gouverneurs d'État qui ont d'ores et déjà engagé des poursuites contre l'État fédéral pour justement cet abandon du financement des universités. Il y a aussi des représentants de syndicats qui engagent des poursuites judiciaires. Mais vous avez sans doute constaté que le système judiciaire américain est extrêmement lent. Donc toutes ces procédures finiront par aboutir à la Cour suprême. Mais peut-être que ça n'y arrivera pas avant la fin du mandat de Trump. De toute façon, ça pourrait prendre 4 ans. Et par ailleurs, Trump est en train de veiller à ce que cette Cour suprême soit principalement composée de ses partisans. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que le Congrès ne fait rien. Ils ont le pouvoir d'arrêter tout ça et ils décident de ne pas le faire. Et bien sûr, le Congrès est contrôlé par les républicains à la Chambre des représentants et au Sénat. Et donc, il faudrait qu'un tiers des républicains moyens s'opposent à cette folie extrême qui est en train de se déployer à la Maison-Blanche. Et les bons républicains sont en train de se faire entendre, mais ils ne sont qu'une poignée, et pour l'instant, ça n'aura pas d'impact. Donc, ce qui me met vraiment en colère, ce n'est pas tant la communauté scientifique, parce qu'elle résiste, elle se bat, et les étudiants aussi. Ce sont nos représentants élus qui me mettent en colère, parce qu'ils ne font absolument rien, alors que la Maison-Blanche est en train de démolir toute la structure de l'administration américaine et de la production scientifique aux États-Unis. Et ça, c'est vraiment horrible. Et je pense qu'on pourrait mettre 25 ans à s'en remettre.
La recherche américaine, Camille Parmesan, par ailleurs, est l'une des plus actives et des plus importantes au monde, tout simplement. Quelles sont les conséquences qu'on peut attendre d'une telle politique aussi radicale, aussi violente à l'égard de cette recherche-là? Comme vous le dites, est-ce que la recherche pourra s'en relever?
Bien, les gens que je connais à titre individuel, à titre personnel, essayent de partir. Ils essaient de trouver un poste ailleurs. La plupart du temps, ils ne parlent pas, malheureusement, de langue étrangère, parce qu'aux États-Unis, on n'apprend pas tellement de langue étrangère. Donc, ils essayent le Royaume-Uni, le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Mais ce qui m'inquiète vraiment, c'est que les jeunes ne vont plus vouloir s'orienter vers la science. Donc, les chercheurs actuels en poste, voient leur carrière détruite, voient leur projet gelé. Mais les jeunes, pourquoi se lancer là-dedans quand on assiste à ça? Et même si le prochain président est formidable et soutient la science et que le prochain congrès est formidable aussi et fait tout pour la science et l'éducation, c'est tellement plus rapide de détruire que de construire. Les États-Unis avaient un fabuleux système avec un vrai système financier pour soutenir la science de la santé, la science naturelle, la science de la géologie. Et tout ça a été détruit en très peu de temps et est en train d'être détruit en quelques mois. Je ne vois pas comment ça pourrait être reconstruit en moins de 10 ans. Et je pense que tel que c'est en train de se profiler, ce sera même plutôt 15 ou 20 ans. Donc il y aura une fuite des cerveaux américains vers d'autres pays. Ça va surtout saper les vocations scientifiques. Pourquoi, moi, si j'étais jeune aujourd'hui, si j'étais étudiant en premier cycle, je ne me lancerais pas là-dedans? Et le temps de relancer le système, même quand l'argent reviendra, il faudra énormément de temps pour reconstruire les infrastructures et pour réembaucher le personnel. Donc c'est vraiment une catastrophe totale.
C'est une catastrophe pour les États-Unis et aussi peut-être potentiellement pour la recherche internationale, parce parce que rappelons-le, les États-Unis sont une locomotive en matière de recherche. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut anticiper dans les années prochaines en matière de recherche pour le monde entier?
Oui,
malheureusement. Quand les choses se passaient bien, les États-Unis, évidemment, soutenaient énormément la recherche à l'international. Il y avait aussi beaucoup de projets collaboratifs, de financements internationaux, d'ateliers, de congrès, et tout ça a disparu. Tout ça, c'est fini. Donc, la recherche internationale va bien sûr souffrir de façon extrêmement concrète et très vite. Et on le voit déjà, par exemple, avec la suppression des financements de l'USAID, par exemple, tous les progrès qu'on a pu faire dans la lutte contre le sida, par exemple, contre la rougeole, contre toutes sortes de maladies anciennes ou nouvelles, tous ces progrès vont être également effacés parce qu'encore une fois, beaucoup de financements venaient d'une manière ou d'une autre des États-Unis. Donc c'est vraiment une catastrophe à tellement de niveaux. C'est assez difficile pour moi d'en parler sans avoir envie de pleurer, pour être franche.
Alors, on va essayer de mettre un peu d'espoir dans tout ça, Camille Parmesan. Et moi, j'aimerais que vous nous parliez de ce monde dans lequel vous souhaiteriez continuer d'évoluer. Quels sont vos espoirs? Parce que l'espoir fait vivre, on le dit en français. Quels seraient vos espoirs à vous?
Mon espoir, c'est que les jeunes vont réussir à sortir du bois et à non seulement manifester, mais exiger du changement auprès de leurs dirigeants à tous les niveaux. Ils ont de l'énergie, sont prêts à se sacrifier. J'ai assisté à ça. J'étais extrêmement déprimée avant. Pendant les années Bush. Et ce qui m'a permis de reprendre courage, ça a été de participer à une rencontre, une COP à Copenhague en 2009, parce que 80% des gens qui venaient à la COP avaient entre 18 et 25 ans. Et ils avaient énormément d'énergie, énormément de conviction. Ils veulent vraiment changer les choses. Et donc, c'est là que je puise mon espoir, et c'est la raison pour laquelle je fais énormément de sensibilisation des jeunes pour les encourager à ne pas rester passifs, parce que c'est leur vie qui est en jeu. Pour moi, tout ira bien. C'est leur carrière et leur vie qui est en réalité en jeu aujourd'hui.
Bien, on parlait tout à l'heure des actions collectives. On peut faire l'annonce ce vendredi 7 mars. Dans toutes les villes universitaires de France se tiendront des rassemblements dans le cadre de l'appel Stand Up for Science qui a commencé aux États-Unis en écho au mouvement initié là-bas. On partagera bien sûr le lien de cet événement sur Blue Sky et sur notre site internet. Mille merci, merci infiniment Camille Parmesan d'avoir été avec nous aujourd'hui pour partager votre expérience et puis pour nous éclairer sur cette actualité sombre, mais on espère changeante.
Merci à vous aussi.
À très bientôt. Un grand merci également à vous Marguerite Capelle pour la traduction aujourd'hui. À présent, il est l'heure, comme chaque jour, de retrouver Alexandre Morales qui s'en vient avec sa chronique Avec Science.
Comment les amas de galaxies sont-ils liés les uns aux autres? L'univers n'est pas vide, bien sûr, et la matière y est répartie de manière inégale en formant des structures. Vous connaissez évidemment le système solaire dans lequel les planètes, dont la Terre, orbitent autour de leur étoile centrale, le Soleil. Mais le système solaire appartient lui-même à une galaxie spirale qu'on appelle la Voie lactée. Notre galaxie appartient à un groupe de galaxies, le groupe local, qui appartient lui-même à un super amas, et tout cela fait partie d'une superstructure plus grande encore, l'Agnakéa. Elle fait près de 500 millions d'années-lumière de long, donc vous voyez, on parle ici de formations très complexes, très très grandes, dont la structure a été générée dès les débuts de l'univers, au cours des premières fractions de seconde du Big Bang. Au moment de la grande explosion, la matière ne s'est pas répartie uniformément à travers l'espace. Elle a formé la toile cosmique. Ce sont des zones de vide séparées les unes des autres par des filaments de matière qui se rejoignent en des points très denses qu'on nomme des nœuds cosmiques. Ça ressemble vraiment aux images qu'on peut se faire de l'intérieur du cerveau avec ses neurones et ses synapses interconnectées. Dans une nouvelle publication dans Astronomy and Astrophysics, des scientifiques annoncent la découverte de nouvelles structures géantes. Daniel Pomared est chercheur à l'Institut de recherche sur les lois fondamentales de l'univers de Paris-Saclay. Il est spécialiste de la cartographie du cosmos.
Alors, la découverte de Kipu a été faite par un groupe qui est spécialisé dans l'étude des amas qui émettent de la lumière en rayon X. Alors, ce groupe dispose d'un catalogue qu'ils utilisent pour étudier la structuration de la matière à grande échelle. Ce catalogue trouve son origine sur un sondage du ciel en rayon X qui date des années 90 et qui s'appelle le ROSAT All Sky Survey. Donc, un sondage sur tout le ciel qui permettait de cataloguer la présence d'amas qui émettent dans les rayons X. Alors, dans les années qui ont précédé cette découverte de Kipu, ils ont utilisé ce catalogue pour étudier les structures qui se trouvaient dans l'univers proche, à une distance allant jusqu'à 400 millions d'années-lumière, donc à l'intérieur d'une sphère de 400 millions d'années-lumière de rayons centrés sur nous. Dans cette nouvelle étude, par contre, ils se sont concentrés sur une coquille sphérique avec un rayon minimum de 400 millions d'années-lumière et un rayon maximum de 800 millions d'années-lumière. Et donc, ils ont regardé ce qui se trouvait à l'intérieur de cette coquille.
Ils ont ainsi pu étudier la distribution en trois dimensions de 345 amas de galaxies qui se trouvent dans leur zone d'observation. De cette manière, ils ont pu produire des cartes en 3D de la répartition de ces amas. Et même à l'œil nu, on peut observer que des structures se détachent de l'ensemble. Bien sûr, ils n'ont pas fait ça à l'œil, hein, et ils ont utilisé des logiciels informatiques qui estiment si ces amas de galaxies sont suffisamment proches pour être liés les uns aux autres par des effets de gravitation. Ils ont ainsi identifié 5 structures, je vous les donne pêle-mêle. Il y a le superamas d'Hercule, celui du serpent couronne boréale, celui du sculpteur et de Pégase, le superamas de Chapelet et enfin le dernier qui nous intéresse ici, le superamas Kipu. Il est présenté par les auteurs comme la plus grande superstructure jamais observée.
Alors dans les 5 structures qu'ils ont identifiées, ils les ont classées en fonction de leur taille et la première qui émerge, ils lui ont donné le nom de Kipu. On la voit très bien, sans avoir besoin d'algorithme, en étudiant la carte qu'ils ont publiée. On la voit apparaître de manière saillante. C'est une structure qui est immense. Donc elle mesure 1,4 milliard d'années-lumière et elle s'étend sur une vaste fraction du ciel. En fait, elle est tellement grande qu'elle couvre plus de la moitié du ciel. Elle est essentiellement linéaire. Alors, en analysant sa structure, on peut voir qu'elle contient au total 68 amas de galaxies. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, il y a une extrémité australe de cette structure qui contient environ 40 amas de galaxies, tandis qu'à l'autre extrémité du filament, du côté septentrional, on voit une autre surdensité avec, disons, une douzaine ou une quinzaine d'amas de galaxies. Et entre les deux, on voit un filament qui est beaucoup plus ténu.
Un filament donc avec des zones plus épaisses et qui tient son nom du Kipu, un outil de comptage fait de cordes et de cordelettes utilisé par les civilisations natives des Andes. Alors, les auteurs le présentent comme le plus grand superamas jamais observé, mais en réalité, c'est bien plus complexe. La littérature fait état d'autres structures de taille équivalente, comme le Grand Mur de Sloan, et puis ces tailles sont des approximations, donc en science, il faut rester prudent avec les superlatifs et les effets d'annonce. Enfin, le filament étant parfois ténu, d'autres études seront nécessaires pour s'assurer que Kipu est bien une structure unique et pas un alignement fortuit de deux superamas.
Merci beaucoup Alexandre Morales, on vous retrouve demain pour votre prochaine chronique avec Science. Un grand merci à toute l'équipe de la science CQFD, Tom Umdenstock, Natacha Triou, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Ali Ruyère-Thompson, Eve Etienne, Loïc Dutoit, Bruno Sansigny, Noémie Eliazor, Lou Anget. À la réalisation, Olivier Bétard, à la technique aujourd'hui, Paul Guig. Vous pourrez nous réécouter sur le site de France Culture ou bien sur l'appli Radio France. On se retrouve bientôt et en attendant, gardez le bon cap, il y a toujours une terre de science en vue.